Le père Antille de Charles Ferdinand Ramu. C'est une petite vie que la nôtre, une petite vie qu'on vit au jour le jour. À 7 heures du matin, l'été, à 8 en hiver, les enfants vont à l'école. À 7 ou 8 heures, suivant la saison, la cloche sonne. Ou plutôt, il y en a deux, celle du village et celle du village voisin. On entend l'une ou l'autre, ça dépend du vent qui souffle. Si le vent vient de l'est, c'est Podex qu'on entend. S'il vient de l'ouest, c'est nous. Ces petites cloches sont logées dans un clocheton, au-dessus de la maison d'école, et quand l'heure est venue, le régent monte sous le toit, empoigne le bout de la corde. Tire dessus, et ça ne sonne pas. Tire encore. Alors il se fait là-haut un balancement qui entraîne la corde, et le régent est soulevé, et le régent se hausse sur la pointe des pieds, après quoi le battant heurte pour la première fois le rebord du bronze. Et le son s'en va à travers l'air léger et bleu, ou brumeux et appesanti, prenant son vol à coups d'ailes rapprochés et nombreux, comme une troupe d'étourneaux que le garde-champêtre débusque d'un arbre avec sa pétoire. On entend sonner le timbre de la boulangerie. Il est électrique. C'est un de nos villages du vignoble qui sont comme autant de petites villes, avec plusieurs rues très étroites, et dans ces rues des boutiques qui se louent mal et sont humides. Un tapissier, l'épicerie, un coiffeur, une marchande de cigares, qui vend aussi du papier à lettres, des journaux, des lampes de poche, toutes sortes de choses, une espèce de bazar. Dans une remise, une vieille femme, un mouchoir à fleurs noué autour de la tête, avec des sourcils comme des moustaches, est assise devant ses corbeilles sur un tabouret renversé. On la voit par la porte ouverte qui épluche des choux, trie des pommes de terre, coupe en tranches dans une terrine des betteraves rouges qu'elle a mis cuire la veille au soir. Elle prépare son marché. Il y a eu alors le père Antille et sa fille. Ils venaient de la station du tramway. Elle disait « Voilà, on arrive ». Elle lui disait « Comment ça va ?»« Ça va. » Elle le tenait par le bras gauche, lui, dans l'autre main, tenait une grosse canne à corbin dont il tâtait tout en avançant par à-coups le sol asphalté. « Tu ne risques rien, » disait sa fille, « c'est tout lisse par ici. » Mais lui, il hésitait à chaque pas, tenant la tête un peu renversée, ayant à la place des yeux un ovale noir d'un côté sous son chapeau de feutre. C'était le verre de ses lunettes, et de l'autre, un bandeau qui lui prenait le front en travers. Les femmes qui passaient disaient bonjour à Madame Emery, quelques-unes s'arrêtaient. « C'est mon père, il sort de l'asile des aveugles, on l'a opéré. » Les femmes disaient « Ah, bonjour, monsieur, ça va mieux ?» Il disait « Qui est-ce »« C'est des personnes de connaissance, tu comprends, ça les intéresse, elles ne savaient pas qui tu es. » Un petit homme d'environ 60 ans, ayant une veste de grosse toile brune qui semblait maçonner autour de sa personne, un pantalon de même étoffe avec une bosse au genou et qui s'arrêtait dans le haut de ses gros souliers à clous dont il laissait à découvert la tige. Un petit homme sec, avec une chemise en grosse toile de ménage, sous le col de laquelle était passée une cravate noire, dont on voyait la corde et qui tournait au gris. Il venait du haut des montagnes. Elle aussi. Seulement, elle, il y avait longtemps qu'elle avait quitté son village, s'étant mariée pour finir avec un ouvrier de la commune qui avait fait sa connaissance au café des chemins de fer, où elle était engagée comme servante. Elle, une grosse femme, à présent, avec un chapeau à la mode, lui, un tout petit vieux, habillé avec la laine de ses moutons, chaussé avec le cuir de ces vaches qu'on donne au cordonnier qui vient travailler à façon chez vous. Et elle l'emmenait chez elle, où il devait passer un mois ou deux ayant à suivre un traitement à l'asile. C'est la première fois qu'il venait chez sa fille. C'est même la première fois qu'il s'en allait si loin de chez lui. Car il faut descendre jusqu'au Rhône. Il faut ensuite longer le Rhône jusqu'au lac. Et ici, c'est au bord de ce lac, et presque dans le milieu de ce lac. Si bien qu'Antille se sentait tout perdu, et il s'arrêtait par moments. Il s'était engagé dans le raidillon où la pente devenait raide, et là il s'était mis à avancer avec plus d'assurance et plus de confiance, comme rapatrié. C'est d'aller à plat qui nous gêne, nous autres de la montagne. La cloche de midi commença à sonner au moment où ils passaient au pied de la tour. Ils n'ont plus rien dit, elle et lui. Ils n'auraient plus pu s'entendre. Elle l'avait fait entrer dans un corridor qui menait à un escalier raide. La cloche s'est tue. Elle lui avait pris sa canne, elle le tenait par la main, il se tenait de l'autre accroché à la rampe, ils étaient dans le noir. Puis, comme elle venait d'ouvrir la porte de l'appartement, une grande lumière leur avait sauté contre, à cause du lac, en contrebas. « Eh bien, tu vois la différence, c'est qu'on est bien logé, on est en plein midi. » « Oui. » Il disait, oui, elle l'avait fait asseoir. Et elle lui parlait à présent du fond de la cuisine, où elle venait d'allumer le réchaud à gaz. Lui était assis sur sa chaise, ses grosses mains grises posées sur ses cuisses, sans un mouvement, face au jour. Elle disait, « Émile, c'était son mari, ne va pas tarder à rentrer. Tu t'habitues? Tu sais que tu ne dois pas ôter tes lunettes. » « Je ne les ôte pas. » « Est-ce que tu y vois ?»« Que non, que oui, ça dépend. » Et tout à coup, il se mit à parler comme s'il s'était retrouvé lui-même. « Quel âge as-tu » disait-il. « 37. »« Moi, 66. »« Ah, c'est vieux !» Elle lui disait, « Est-ce que tu y vois à présent ?»« Tu vois les montagnes ? Tu ne vois pas le bateau à vapeur ? Il passe justement sous la fenêtre. Parce que, tu vois là-dessous, c'est l'eau. » « Tu ne le vois pas? Eh bien alors, tu l'entends, le bateau ?» Le vieux a prêté l'oreille. Il s'est fait dans la chambre un léger tremblement, quelque chose de sourd, qui était aussi bien dans l'air que sous la terre, les roues qui battent l'eau en tournant. En même temps, on a entendu un gros pas d'homme dans l'escalier. Joséphine a dit « Le voilà !» C'est Emery qui est entré. Il y avait des voix tout plein cette chambre, qui ouvrait sur une galerie d'où on avait une si belle vue sur tout le lac et les montagnes de Savoie. Des voix d'hommes, des voix de femmes, des voix du nez ou rauques, comme quand on a un gros rhume. Ensuite éclataient des trompettes, c'est une marche militaire. Ensuite, c'est un chœur d'hommes. Ensuite, c'est un accordéon. Le vieil anti disait « Qu'est-ce que c'est ? C'est le poste. Quel poste ? La radio. Émile est dans les traitements fixes. Il a pu s'en payer un. D'où ça vient? Je ne sais pas. De loin. Comment ça vient-il? C'est des lampes. Ah! Le père anti s'était tu, à peine si on entendait les cloches du dimanche, tant ce poste faisait de bruit. Et tout à coup le vieil anti, quelle heure est-il? Eh bien, cette messe. Tu veux aller à la messe? Disait sa fille. Il n'y en a point. On est chez les protestants. Ah! A dit le père anti. Il était comme d'ordinaire dans la pièce du devant où il faisait un beau soleil. Elle l'avait installé sur une chaise. Il se tenait là, sans bouger, avec ses lunettes noires et son bandeau, les pieds rapprochés l'un de l'autre. Il a dit, « Tu te rappelles pourtant bien chez nous, tu y allais chaque dimanche. C'est qu'il faut monter en ville. Comment ça va-t-il ce matin ?» Il a dit, « Pas bien. Tu comprends, si je t'ai mis au nord, c'est que je n'avais pas d'autre chambre, et tu n'y es que pour coucher. Tu n'as qu'à te tenir ici le reste du temps. On y est pas mal ou quoi, hein? Et puis, tu y vois un peu mieux quand même. Veux-tu venir sur la galerie ?» Elle allait et venait dans l'appartement, un balai à la main. Lui, il soupirait. Il levait un petit peu la main, il la laissait retomber. Elle lui disait, « Veux-tu que je te bourre ta pipe ?» Où est-elle ? Attends, je vais te la chercher. C'était un tuyau de corne recourbé avec des anneaux, et le fourneau avait un couvercle à chaînette. Elle lui a bourré sa pipe, la lui a mise dans la bouche, puis, ayant frotté une allumette, l'a approchée du fourneau. Alors, il a fait un mouvement avec les lèvres, comme les petits-enfants quand ils têtent. On voyait monter et descendre sous la peau pendante de son cou la pomme d'Adam. La petite fumée bleue s'est dirigée lentement vers un rayon de soleil où elle s'est engagée. Elle semblait être faite de fines brindilles enchevêtrées, comme une poignée d'épicéas, au-dessus du chapeau du vieux, parce qu'il avait gardé son chapeau. Elle lui disait « Regarde !» Il a tourné la tête. « Il te faut t'exercer à voir, » disait-elle. Et montrant un tableau qui était suspendu au mur, « C'est Émile. Il est avec la société de gymnastique. Il avait eu un premier prix à l'artistique. »«
Je ne vois pas. » »«
Bien sûr, tu es trop loin. Approche-toi. » Elle l'avait pris par le bras. C'était une grande photographie, avec une vingtaine d'hommes, en maillot blanc. Ceux de devant assis par terre, ceux de la seconde rangée assis sur un banc, ceux de la dernière debout.
« Des beaux hommes, » disait-elle.
Il disait,
« Je ne vois pas. »
Et là, c'est le portrait d'Émile. Un agrandissement. Il avait une couronne de laurier sur la tête et la renversait en arrière, tout en faisant saillir exagérément les muscles de ses bras qu'il tenait croisés sur la poitrine.
« Je ne vois pas. »
C'est à ce moment-là qu'après toutes ces cloches, comme quand on ouvre une écluse et l'eau qui est contenue derrière vous arrive dessus et on est pris dedans et on se débat dedans, il y a eu un grand bruit d'orgue quelque part, mais en même temps dans la chambre. Et elle,
« Ah, voilà que ça commence, tu entends ?»
Elle continuait à aller et venir, passant un torchon sur les meubles, allant ensuite le secouer par-dessus la barrière de la galerie, revenait, lui toujours absent, toujours immobile sur sa chaise. « On est quand même à l'église, » disait-elle, « c'est commode, pas besoin de bouger, et puis il y aura un sermon. »
« Oh, c'est pas la même chose. »
« C'est vrai, » disait-elle, « mais il joue de l'orgue, comme nous. » Puis reprend, « On mangera un peu plus tard, parce qu'Émile est au café. »
« Eh bien, beau-père, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» demandait Emery.
Lui levait une de ses mains qu'il tenait croisée sur le pommeau de sa canne, et puis la laissait retomber.
« Ah, qu'est-ce que vous voulez, à votre âge, c'est sérieux les yeux, ça ne pardonne pas !»
Il riait. Il y avait un grand bruit de moteur, c'était les canots sur le lac, des petits et des gros, des bateaux à rames, avec une motogodie, qui est un appareil qui se visse à l'arrière. Ils avancent tout seuls, ils font un bruit comme quand on bat de la crème dans une jatte. D'autres, plus gros et blancs, assez élevés au-dessus de l'eau, d'autres enfin, tout plats, qui se redressent quand ils prennent de la vitesse, pareils à des chevaux cabrés, l'arrière disparu dans le trou qui se creuse et l'écume qu'ils font.
« Ah, tu vois celui-là, père, il se tient debout, ce qu'il va vite !»
Le plancher était secoué, les vitres tremblaient dans leurs croisillons, et le cheminement du bruit ne se faisait pas dans l'air seulement. Il était souterrain aussi, venant par des chemins secrets déranger votre entendement jusqu'au fin fond de vous-même. Anti ne semblait pas entendre. C'est qu'Anti n'était plus là. On le voit, il ne vous voit pas. Il avait fui, loin de vous. Il était retourné dans son village. Un petit village au perché, un petit village brun et blanc qui fait tache parmi les prés, tout là-haut dans la montagne. Le brun, c'est le bois de Mélèze, dont sont construites les façades. Le blanc, les soubassements passés à la chaux. Anti disait, quel jour est-ce ?
Le 25.
Ils doivent être déjà montés. C'est parce qu'il fait chaud et la neige a fondu plus tôt qu'à l'ordinaire. On ne distingue déjà plus d'ici au sommet de la Dandoche, c'est-à-dire à plus de 2000 mètres, que quelques flaques blanches dans les creux de la roche. Lui, il regarde, en dedans. Il voit ceux de son village qui montent avec le troupeau. Ils prennent par le chemin qui mène en Tservouir. Il bouge les pieds. Il dit des choses au hasard. Il dit « Qu'avais-tu besoin d'aller en place ? Est-ce qu'il gagne bien sa vie, au moins, ton mari ?»«
Je t'ai déjà dit, bien sûr. Il est sous-piqueur. C'est des places sûres. Et tu vois, on est bien logés. 3 pièces.
Et de la vue.
Et du soleil. »
Anti disait « Donne-moi ma pipe. » Elle allait de nouveau lui chercher sa pipe et mon tabac. Elle lui bourrait de nouveau sa pipe, et il était là, tout le long du jour, et en même temps il n'était pas là. Il était à côté de vous, mais en même temps loin de vous, et très loin de vous, étant déjà rentré chez lui. Alors il se mettait à vous raconter des histoires. Il disait « C'est l'été dernier, parce qu'il avait fait beau tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Ils l'ont retrouvé juste dans le bas du glacier, parce que la glace s'était retirée. Elle l'avait abandonné, là. » Il disait « Il y avait 50 ans qu'il avait disparu, et quand son fils est venu reconnaître le corps, eh bien, son fils était plus vieux que lui, parce que le père n'était pas changé, pas un poil de changé, avec tous ses cheveux et sa moustache restée noire, pas pourrie, le teint frais. Alors, quand son fils est arrivé,
Il a mon âge, la barbe toute blanche, plein de plis dans la figure et dans le cou. C'est le père qui avait l'air d'être le fils, et c'est le fils qui avait l'air d'être le père, qui était là à regarder. Et nous, on le regardait, et nous, on faisait la comparaison. Tout voûté, le fils, et boiteux, et petit, et qui s'appuyait sur une canne. L'autre, un grand garçon encore jeune, allongé sur le dos comme s'il dormait. « Oh !» disait Auntie, « tu ne peux pas te souvenir de lui. Quel âge as-tu déjà ?» Elle disait, « 37. »« Eh bien, tu vois, tu n'étais pas née. Tu n'y crois plus à ces histoires. »« Quelles histoires ?»« Ces âmes. Car il faut te dire qu'il courait les filles, ce Chara, quoique marié. » Et Chara a ainsi été introduit dans l'histoire. Et c'est l'histoire de Chara. Auntie s'était mis à la raconter, peu à peu, fumant sa pipe, pendant qu'il y avait des bateaux à vapeur et à moteur qui vont vite, et sur ces mêmes petites vagues courtes, beaucoup de voiles, toutes blanches, qu'on voyait pencher d'un mouvement vif, comme quand les poules piquent un ver entre les pavés. Il fumait sa pipe à couvercle de laiton. On voit par les trous du feuillage un ciel tellement bleu qu'il en est violet. Lui était comme ça dans la neige. Et les pierres, avec ce Chara qui courait les filles, bien que mariées. Et Chara avait disparu il y a déjà 50 ans. C'est seulement l'année dernière qu'ils l'ont retrouvé. Ceux du chalet ont vu le berger des moutons qui leur faisait des signes tout en haut des rochers. Il y a le pâturage, et puis les éboulis, et puis une paroi, et ensuite le glacier. Depuis tout là-haut, au bord du glacier, le berger des moutons qui leur faisait signe de venir avec son chapeau, l'agitant au bout de son bras. Ils ont trouvé Chara, dans l'eau froide, au bas du glacier, là où la glace est mince comme du verre à vitre. Le glacier venait de le cracher, c'est pourquoi il était encore tout frais. Elle s'appelait Fridoline. « Oh !» disait Auntie, « une jolie fille, je me la rappelle bien. J'avais 18 ans, elle en avait 20. On l'avait placée comme servante à l'auberge du col, parce que son père était veuf et avait de la peine à vivre, ayant 6 autres filles et 2 garçons. Ça lui faisait toujours un peu d'argent au père. Et c'est là-haut que Chara l'a connu. Lui, il était toujours en route, et tout le temps à courir la montagne, hiver comme été. Braconnier, contrebandier, tout ce qu'on voudra. Il avait pourtant une gentille femme et 2 petits-enfants, mais il ne tenait pas en place. Tu vois bien ce col des Montais, c'est à droite du pâturage. Il n'est séparé du pâturage que par la borgne, qui coule là au fond d'une gorge, parce qu'elle a scié le rocher. Et on ne peut la voir que lorsqu'on arrive au fin bord, tellement c'est étroit, cette fente. Enfin, tu dois t'en souvenir, tu as souvent été là-haut, bien sûr, quand vous montiez avec moi voir les bêtes. » Mais on entendait maintenant Madame Emery mettre la table à la cuisine. La cloche de midi venait de sonner. Madame Emery s'impatientait ce jour-là parce que son mari était en retard, ayant l'habitude d'aller prendre un verre avec des amis au lieu de rentrer. « On n'a même plus le temps de manger, » disait Madame Emery, « avec ce système, sans compter ce que ça lui coûte. » Elle avait été ouvrir la porte de l'escalier, écoutant s'il ne venait pas. Et parce qu'il ne venait pas, elle avait fait claquer la porte, ce qui avait décidément interrompu Auntie, toujours assis sur la galerie, avec sa pipe, sa canne, ses lunettes noires, ses vêtements en grosse laine brune, et sur la tête, son chapeau noir. « C'est une petite vie que la nôtre. » On voit de la galerie Parisot qui sulfate sa vigne pour la 4e ou 5e fois. Il n'avait qu'à descendre la rue qui passait devant chez lui, puis tourner à gauche dans un sentier, entre 2 murs, où on lisait sur un écriteau à l'entrée, sans issue. Ensuite, il se mettait à aller entre ses ceps, d'un pas lent, faisant se déployer un bel éventail, dont la couleur se déposait, tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, sur les feuilles et les grappes. Un papillon, 2 papillons blancs et un jaune, étaient soulevés comme dans un courant d'air, puis retombaient dans l'entre-deux des échalas bien alignés. Il y avait toutes ces montagnes. Il y avait, au bout du lac, juste à la hauteur de la tête de Parisot, tous ces sommets pointus ou pas pointus qui semblaient être faits d'un peu d'air serré dans les mains et qui ne se distinguaient de l'air qui est devant et du ciel qui est au-dessus. Que par une certaine blancheur brillante dans leurs replis. Une petite vie. 6 à 7 heures le matin dans votre vigne, et autant l'après-midi, jusqu'à ce qu'elle ait changé de couleur, faisant un carré drôlement bleu au milieu de la verdure. Un peu plus loin, sur la droite, un ouvrier du téléphone était en train de monter à son poteau. Un grand garçon, tout en bleu, et il a des crochets qui se lassent autour de la cheville par des courroies. C'est pour monter au-dessus de la terre. On se passe autour de la taille une ceinture qui fait en même temps le tour du support et qui vous empêche de tomber en arrière. On enfonce l'un de ces crochets recourbés dans le bois et on s'appuie dessus pendant qu'on lève l'autre pied. Il montait au ciel. Une grande, haute maison qui était de l'autre côté de la route et empiétait par sa masse sur l'étendue des eaux s'est alors aplatie, découvrant le haut des montagnes. Elles s'élèvent, elles entraînent à leur suite des rochers, puis des forêts et puis des champs, des prés, le rivage cousu à l'eau, et l'eau s'élève à son tour, pendue à elle comme un drap lisse. L'eau s'élargit et s'agrandit de tous côtés, vers l'est et vers l'ouest, l'homme monte. Il y a, juste au-dessous de lui, un grand plantage, comme on dit, et un petit homme est dedans, qui est baissé sur ses carottes, maigre, en chemise, avec un pantalon de toile. Des petits pêchers de plein vent se dressent entre les plates-bandes. Lui, penché vers la terre, nous autres, qui montons en sens inverse, la tête levée. Et pour peu qu'on la tourne, les yeux s'enchanteraient de tout ce qui leur est fourni à cause d'une domination. Parce qu'à présent, on voit tout. On voit vers Genève et vers Villeneuve, on voit les bateaux, les viaducs, des villages, et ils sont parmi les vignes, comme une poignée de cailloux. Des collines, leurs sommets, et sur l'un de ces sommets, une tour, l'eau frisée, l'eau qui est comme de l'huile dans une poêle à frire, et par endroits, l'eau a pris feu. Et, nous autres, on est dans le bleu. Balancés dedans, caressés par lui, et le soleil vient avec son bras et nous le met autour des épaules, pendant que maintenant l'homme du téléphone se laisse aller en arrière, déroulant une corde au bout de laquelle on attache le fil de cuivre. Alors, cette Fridoline, Chara l'avait trouvée de son goût, ça se comprend, une jolie fille, mince, fine, adroite. Oh, je me souviens bien d'elle à présent. C'est drôle, on avait oublié, et puis ça vous revient. C'est depuis que je n'y vois plus. Parce qu'alors, on voit en dedans. Anti disait, on a les yeux comme retournés. Et je le vois, lui aussi, ce Chara. C'était un beau grand garçon, et bon tireur avec tout ça. Il ne manquait pas sa bête, à 200 mètres. Il a dû lui plaire, à elle aussi. Dieu sait, les filles, ça tourne toujours mal. Oh, disait Madame Emery. Oui, justement, toi la première, est-ce que tu m'as demandé la permission de te marier, et pas dans ta paroisse, et avec un protestant encore? Non, disait-il, dis rien, c'est fait, tant pis. Et puis, je ne sais pas pourquoi je te raconte ces histoires. Tu n'y crois pas, toi, ces âmes. Ça fait rire la jeunesse. Moi, je n'y croyais pas non plus. C'est seulement quand je l'ai vu, Chara, parce qu'il avait les yeux ouverts. Elle s'était vengée. On comprenait mal ce qu'il voulait dire, parce qu'il était tantôt au commencement, tantôt à la fin de son histoire. Elle lui avait demandé « Qui ça ?»« Fridoline, elle s'est noyée. C'est vieux, disait-il, 50 ans. Chara lui avait fait un enfant. Il vous regardait, couché sur le dos. Il y avait de l'eau qui lui coulait entre les jambes. C'est le glacier qui fondait. » L'histoire venait peu à peu, au hasard, par petits morceaux. Il fallait les assembler, comme ces plots qu'ont les enfants qu'on rapproche, selon le modèle. On n'avait rien remarqué de tout l'hiver. Elle n'en avait rien dit à personne. Elle savait y faire, vois-tu. Silencieuse, elle se serrait la taille. Elle avait dû élargir son caraco, et ça devait s'être passé à l'automne. Et c'est seulement au printemps que les femmes ont commencé à parler bas, sur son passage, se disant « Qu'est-ce qu'elle a? Elle marche drôlement. » Alors, au printemps, Fridoline est remontée. Elle a repris sa place, parce que l'auberge est fermée l'hiver. Ça devait faire dans les 6 mois. Elle a dû voir qu'il n'y avait plus moyen de cacher la chose. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé entre Chara et elle. Mais voilà, quelques jours après. Tu te rappelles bien, la borgne, sur le côté du pâturage. C'est étroit, ça ne se voit pas. Ça a été scié dans le rocher. Et puis c'est profond comme tout, entre deux murs tellement rapprochés qu'il y fait nuit par le plus beau soleil. On a trouvé au bord de la gorge son chapeau avec son petit bouquet posé dessus. Elle était tombée. Seulement on s'est dit, Comment est-ce qu'une fille comme ça peut bien faire pour tomber, qui connaît l'endroit, qui a le pied sûr, qui est vive, qui est leste? Tiens, on s'est dit, ça, c'est suspect. Elle, on ne l'avait pas retrouvée. Ça s'était passé au commencement de mai. Le tenancier de l'auberge avait engagé une autre servante. Nous autres, on ne disait rien. J'avais 18 ans. C'est qu'on aimait autant ne pas avoir affaire avec Chara, étant donné son caractère. Quand même, on se disait des choses à l'oreille. Il n'était d'ailleurs presque plus jamais au village. Il avait laissé sa pauvre femme sans argent. Elle devait aller mendier à la boutique pour avoir 1 kilo de maïs ou 1 livre de sucre à crédit. Lui, pendant ce temps, courait la montagne, tantôt tout seul, tantôt avec un camarade, nommé Till, qui braconnait comme lui. « Où es-tu ? » Anti appelait sa fille. « Ici. Où ça, ici ? Dans ma chambre, je fais de l'ordre. Tu écoutes ?» Puis, il ne s'est même plus demandé si sa fille l'entendait, ayant fini par se parler à lui-même et par parler tout seul sur cette galerie où il y avait des plantes vertes, dont Madame Emery venait de temps à autre essuyer les feuilles avec une petite éponge. « Ça a duré tout l'été, » disait encore Anti, « et de tout l'été, on n'a plus rien su de Fridoline. Seulement, au commencement de septembre, elle est revenue, la tête en avant, et pas bien peignée, avec plus point de nez, les yeux crevés, à moitié déshabillée. Elle n'avait plus qu'un soulier. « C'est dans cette gorge, » disait Anti. « C'est les pierres, » disait Anti. « Et puis les racines des arbres. Elle l'empoignait par un pied, comme ça, et elle, elle avait dû rester longtemps, comme ça, à aller en avant et en arrière, à se balancer d'arrière en avant, dans une mare à cause des remous. C'est pourquoi elle avait mis tant de temps à nous arriver. Mai, juin, juillet, août, 4 ou 5 mois, retenue, puis relâchée. Qui s'en va de nouveau, qui est arrêtée à nouveau, et cette fois par un bloc de rocher parce que le courant la pousse contre. Et puis, plus loin encore, retenu par les cheveux, jusqu'à ce qu'il soit arraché et qu'il s'en aille avec la peau. Ils l'ont trouvé dans le pré à la sortie de la gorge. « Ah !» on a dit, « c'est elle !» On l'a reconnue à son caraco, dont il ne restait que le col et une manche. « Ah, la malheureuse !» Ils ont sonné la cloche, et c'est justement à ce moment-là. Chara était descendue au village par hasard, et il l'a vue comme on la ramenait sur un brancard, pas recouverte. Un homme devant, un homme derrière. Chara avait changé de figure. Il a fait demi-tour. Il est parti droit devant lui. Et on n'a plus rien su de lui. Lui, il n'a pas mis 4 mois, mais 50 ans pour apparaître. Les vieux avaient raison. Quand ils l'avaient vu partir, ils avaient dit « il est perdu ». Ils disaient de Fridoline « elle, elle est là-haut. Elle l'appelle déjà. Elle ne le lâchera plus. C'est ses âmes sur le glacier. » Ceux qui meurent sans sacrement, ils sont condamnés à faire sur terre leur purgatoire. Ça te fait rire? Oh, je sais bien, les jeunes. Eh bien, les jeunes n'y croient plus. Ils disent, c'est des histoires de vieux. Moi, je suis vieux, tu comprends? 60 et quelques. Lorsqu'on quitte le village de Pralon, qui est le village d'Anti, on s'élève tout de suite contre l'avancement de la montagne par des lacets. C'est un chemin pour le bétail. Il n'est pas large. Il est large juste ce qu'il faut pour laisser passer un mulet avec sa charge, c'est-à-dire son bas avec des choses dessus qui débordent de droite et de gauche, ou une fille assise de côté. 1,50 m, guère davantage, étant là comme une corde qu'on aurait déroulée d'en haut, brasse à brasse, et ses divers segments sont restés disposés en zigzag les uns au-dessus des autres, de sorte qu'on tourne, on tourne tout le temps. On va dans une direction, puis dans la direction opposée. Il y a au-dessus de vous des choses contre le ciel qui se déplacent tout le temps de la même façon. Et tantôt sont derrière vous, tantôt sont devant, un peu de neige, des rochers. Dans pas beaucoup d'arbres et maigres, des mélèzes, quelquefois un gros sapin, quelquefois, là où le roc est à nu, plus rien. Et le chemin a été taillé dans le roc. Et il y a du côté du vide une barrière, à cause des bêtes. Ainsi on s'élève rapidement. Ainsi on voit, tantôt à sa droite, tantôt à sa gauche, le village qui rapidement s'enfonce et s'aplatit, se resserre, se rapetisse, jusqu'à n'être plus qu'une tache sombre, comme une bouse de vache, au milieu des prés verts, avec une rivière qui les partage en deux et brille dans le soleil de toutes ses écailles, pareille à un orvet. Ainsi on monte longtemps. Il faut bien que de temps à autre, on s'arrête pour reprendre son souffle parce que c'est raide. Alors, on entend quelque chose et on ne sait pas ce que c'est. On se dit, est-ce le vent ? Peut-être qu'on ne le sent pas à la place où je suis. Mais quand on regarde en l'éloignement les branches des arbres, on voit qu'elles ne bougent pas. Un bruit comme celui d'un train qui passe dans un tunnel, ou bien celui d'une assemblée nombreuse, où tout le monde parlerait à la fois. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient-il ? Il semble que ce bruit soit sous terre, et en même temps dans l'air, autour de vous. Il est comme nulle part et partout, on ne sait où le situer, parce que, où qu'on se tourne, on voit les pentes se coudre l'une à l'autre, sans solution de continuité. L'eau a ses cheminements à elle, qui sont secrets. L'eau a travaillé dans l'épaisseur du massif et s'est enfoncée. Sa largeur même, qui n'est pas grande, a usé sous elle le rocher. Elle a été comme la scie dont le tranchant ne laisse au-dessus de lui qu'une trace presque imperceptible, qui a la minceur de la lame. C'est la borgne qui est descendue verticalement dans la profondeur. Et on ne s'aperçoit de sa présence que lorsqu'on arrive à l'extrême bord de l'entaille, au fond de laquelle elle est à plus de 100 mètres. Et là, vit, circule, parle, fait un bruit étouffé, grognonne, profère sourdement. On l'allonge, sans s'en douter. On grimpe comme à une échelle, tout à côté, sans le savoir. Et quand on arrive enfin en terrain plat, sur une espèce de palier, on ne s'en doute d'abord pas davantage, tellement elle reste encaissée, encore un bon bout de chemin. C'est seulement plus loin qu'elle reparaît, peu avant qu'elle ne se divise. De nouveau, elle brille à ras du sol dans le gazon, parmi les pierres, avec sa grande pureté, et là est partagée en deux par un éperon de roc, sur un des côtés duquel elle coule, tandis que sur l'autre il y a un enfoncement, une sorte de grande poche. C'est le pâturage de Tservouir qui est surmonté lui-même par le glacier. C'est au bas de ce glacier qu'ils avaient trouvé Charan. Le fils avait 60 ans, le père une 30aine. Le fils, les cheveux blancs, tout voûtés et ridés, le père, avec une moustache noire, une figure lisse, un bon teint. Alors on aurait dit que le fils était le père et le père était le fils. C'est comme ça, disait le père Anti. Et j'étais là, moi aussi. Et on se demandait, comment est-ce que Charan a fait pour se perdre sur ce glacier, il y a 50 ans de ça? Mais les vieux d'alors l'avaient bien dit.
Il est perdu.
Oh, je sais bien que tu n'y crois plus à ces histoires. Moi, je n'y croyais pas non plus. Mais voilà, on prend de l'âge. Et puis, c'est que je les ai vus, tu sais, une fois. C'est ces âmes, parce que ce pays là-haut est encore un pays du vieux temps, et les temps comme les hommes sont posés à côté les uns des autres. Ils coexistent sans se ressembler. On raconte là-haut que ceux qui sont morts sans sacrement, leurs âmes sont condamnées à ne pas quitter la terre jusqu'au jour du grand jugement, s'étant réfugiées dans les lieux écartés comme ces champs de glace qui recouvrent les grandes montagnes, loin des hommes, et là errent en troupe sans jamais trouver de repos. Mais il est dit aussi que, si elles ont eu à souffrir de quelqu'un quand elles étaient encore sur la terre, elles cherchent à se venger de lui. Elle l'appelle, elle l'attire, le faisant mourir de la même mort qu'elles-mêmes ont dû subir. « Et moi, je les ai vues, ces âmes, » disait le père Anti. « C'est une fois que j'avais été chassé. Il n'y a pas à dire, je les ai vues. J'avais encore de bons yeux en ce temps-là, et ils n'ont pas pu me tromper. Je tirais ma bête, à 200 pas, et encore à balle. C'était pas comme à présent. J'étais avec Coudurier. On n'avait rien tiré de toute la journée. » Alors on s'était dit qu'au lieu de redescendre, on passerait la nuit dans la cabane du berger des moutons. On avait fait un peu de feu, avec un peu de bois qui restait de la provision sous le rocher. C'était l'automne. On avait mangé, et puis, avant d'aller dormir, on était venu s'asseoir juste à l'endroit où la pente casse sous vos pieds. Et on est suspendu au-dessus de rien, c'est-à-dire à 200 mètres au-dessus du glacier noir et bleu. On fumait sa pipe. Juste au moment où le jour s'en allait, il faisait encore clair sur les pointes, mais l'obscurité s'appesantissait toujours plus dans les fonds. Alors, il y en a eu une, et encore une, et encore une. Elles sortent, comme ça, chacune à son tour de son trou. C'est blanc, c'est comme des femmes en chemise. c'est léger, ça s'étire, ça s'élève, ça balance un peu. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Parce que d'abord, elles restent attachées par en bas et reposent encore sur leurs pieds à la surface de la glace. Puis elles bougent, elles se mettent en mouvement, elles se déplacent de côté. Elles sont blanches sur le bleu et le vert, puis dans le gris, puis dans le noir. Et à mesure qu'il fait plus nuit, elles se rapprochent les unes des autres. Elles font une troupe qui va et vient, monte vers nous, redescend. Alors, on entend un petit bruit, comme celui du vent. C'est qu'elles se plaignent. Un bruit comme quand il y a du vent dans la cheminée. C'est qu'elles ne sont pas contentes. Tout à coup, Coudurier s'est élevé. Coudurier m'avait dit « Tu viens ?» Il m'a dit « Je crois bien qu'il vaut mieux qu'on redescende. Moi, je n'ai rien dit. » Coudurier s'était mis debout. Moi, j'en ai fait autant. On n'a plus parlé. On redescendait. Et c'est drôle qu'on soit arrivé tout entier au village. Tellement on allait vite et de nuit, sans lumière et dans des mauvais endroits. Mais enfin, on est arrivé. Elles vous attirent. Elles vous disent des choses qu'on ne comprend pas. Alors peut-être qu'il y en a qui se rapprochent pour comprendre, une fois qu'ils sont appelés. Chara, tu te rappelles ce que les vieux avaient dit. Il ne va plus être tranquille. Et qu'il était parti pour là-haut le jour où elle était revenue, ou du moins son corps, mais vide d'elle. Eh bien, lui, on ne l'a plus jamais revu, c'est-à-dire 50 ans après. C'est ceux de l'auberge qui nous ont tout raconté à l'automne, et qu'il était toujours en chasse, et chassait toujours du même côté, et revenait sans avoir rien tiré. Mais on avait beau lui signaler les bonnes places, il ne voulait rien entendre. Jusqu'à un certain jour, où il avait paru particulièrement agité, il était parti de bonne heure, dans l'après-midi. Il était rentré presque tout de suite. Il avait nettoyé son arme, avec soin, comme s'il n'était pas content de la manière dont le mécanisme fonctionnait, installé devant l'auberge. Il était reparti, sans rien vous dire, vers les 6 heures, c'est-à-dire peu avant le coucher du soleil. Il commençait à faire nuit quand ceux de l'auberge ont entendu un premier coup de feu.
Et puis un moment se passe.
Il y en a eu encore un autre. Et puis, plus rien, plus jamais rien. C'est l'histoire que raconte le père Anti. Un jour, 2 jours, 3 jours, on s'était mis à aller le chercher, même que les gardes frontières, pour finir, s'en étaient mêlés. Silence. Ces froids espaces ne vous répondent pas. Il y a 5 ou 6 hommes qui prennent leur distance, et chacun cherche de son côté. Ils appellent par moments ou soufflent dans une corne. Au cas où Chara serait blessée et ne pourrait pas se tenir debout. Ils soufflent dans une corne. Silence. Ils écoutent, on répond, c'est l'écho niché dans le creux d'un rocher. Ils écoutent, c'est le bruit de l'eau, c'est une pierre qui roule sur la pente, ou le cri des choucas qui montent et descendent le long d'une paroi comme des mouches contre une vitre. Silence. Eux, ils se font des signes de loin, étant arrivés à des points convenus d'avance. Tout petit, dans l'immensité où à présent plus rien ne bouge, où l'eau elle-même se prend si tôt que vient le soir. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, il te faut faire taire cette mécanique, on ne s'entend plus. Anti parle parmi le bruit. Et puis ces lunettes, quand est-ce qu'on va me les ôter? Père, voyons, soyez raisonnable, vous savez bien ce que le médecin a dit. Ça n'a pas été aussi vite qu'il l'avait cru, il faut de la patience. De la patience, dit Anti. J'en ai trop eu, depuis le temps que ça dure.
Vous vous ennuyez chez nous?
Bien sûr, dit-il, que je m'ennuie. Et puis, c'est à cause des souris.
Il était de nouveau là-haut, dans son village. J'ai tout fermé, j'ai cloué les volets, j'ai baissé le couvercle de la cheminée. Mais, sait-on jamais, il faut compter aussi avec ce qui travaille contre vous en dedans les vers, les souris, les gerces, les 3 fromages, le lard, les habits, les chemises.
Vous n'auriez pas pu demander à mes sœurs d'y aller voir?
Des filles, tu sais ce que c'est, toi. Des filles, ça se marie. Mes filles, c'est marié. Mes filles, ça ne compte plus.
Et mes frères?
Si tu crois, j'ai eu 4 filles et 2 garçons. Je suis tout seul. Si ça brûlait, l'orage, le mauvais temps, une fente dans le mur ou un trou dans le toit, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne.
Il se lamentait à présent. Il pleurait même sous ses lunettes noires. Il faisait un geste pour les enlever. Elle lui disait « Défendu !» Il ramenait ses mains sur ses genoux comme un enfant qui est grondé. Marie est mariée à Grône. Ludivine à Champmartin, la troisième au village. Mais ça a des soucis, ça a des enfants, tes frères de même. Et puis me voilà vieux, et par-dessus le marché j'ai perdu la vue.
Puisque vous allez la retrouver.
Quand ?
Vous savez bien, le médecin a dit qu'il fallait attendre encore un mois. On va continuer à vous faire des piqûres.
Oui, dit-il, ils me prennent la peau entre le pouce et le gros doigt. Ils tirent dessus. À quoi ça sert ? Des singeries.
Dans le vieux temps, disait-il, on allait à Saint-Clair. Tu sais même plus où c'est.
On partait avant le jour, on arrivait à midi, il fallait monter les 40 marches, à genoux. C'était plein de certificats. Au lieu de quoi, dans ces asiles ?
Qu'est-ce que vous voulez, père ? Les modes changent. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous avez été bien soigné. Et puisque vous y verrez assez pour vous conduire, j'irai prendre votre billet à la gare. Je vous recommanderai au conducteur.
Elle parlait. Ensuite venait le poste. Ensuite venaient les cris d'enfants. Ils jouaient sur le derrière de la maison, mais leur voix passait par-dessus le toit. Parisot sulfatait pour la cinquième fois. Et puis, ça va être fini. Vient un temps, en effet, où la vigne s'est habituée à la maladie quand elle l'a, et si elle ne l'a pas, elle ne peut plus l'attraper. Le père Anti a été encore une fois à l'asile des aveugles. On lui avait dit « Vous allez pouvoir rentrer chez vous ». Seulement pourquoi est-ce qu'ils sonnent ici leurs cloches à l'électricité ? Le bon Dieu n'est sensible qu'à la peine qu'on se donne. Des cloches qui sonnent toutes seules, c'est comme les moulins à prière des Tibétains. Ces messieurs de la municipalité ont beau vous dire qu'on ne trouve plus personne pour les sonner, leurs cloches, ce serait une peine supplémentaire de chercher de la main-d'œuvre et de s'assurer de ces services. Mais ils ne s'occupent que du bruit qu'ils font, puisqu'il faut le faire, et de le faire au moindre prix, étant soucieux par ailleurs de se tenir au courant du progrès et se jugeant déshonorés s'ils se laissaient dépasser dans ce domaine. « Il y a une invention, ils disent. Profitons-en. Regardez comme c'est commode. Il y a un bouton. Il n'y a qu'à peser sur le bouton. Une simple pression du doigt et tout l'appareil est mis en branle. On n'a plus qu'à regarder sa montre, on pèse de nouveau sur le bouton, tout s'arrête. Tandis qu'entre-temps, les 4 ou 5 cloches, montant et descendant autour de leur axe, font grand tapage 4 ou 5 fois de suite, le dimanche matin. Le père Anti, il sonne mal. Sa fille, tu trouves ?
Parbleu, disait le père Anti, c'est tout le temps la même chose.
Tandis qu'avec Daillé, « Tu te souviens de Daillé, celui qui avait tué sa sœur ?» Elle secouait la tête. « Il y a bientôt 20 ans que ça s'est passé, tu étais pourtant encore au village. Voyons, Daillé, tu sais, celui qui sonnait en ce temps-là. Il prétendait que sa sœur ne priait pas comme il faut. Il s'était mis à la battre. Et un jour, il l'a tellement battue qu'il l'a laissée morte sur place. On a toujours pensé qu'il n'avait plus sa tête. Ce qui n'empêche pas qu'il a été condamné à 20 ans. Seulement, disait le père Anti, comme il se conduisait bien, on l'a relâché au bout de 15 ans. Il est revenu au village, il n'était pas encore très vieux. « Oh !» disait le père Anti, « il n'est pas si vieux que moi. Il est tout au plus dans la 50aine. Eh bien, sais-tu ce qu'on a fait ? On lui a rendu sa place, parce que personne ne sonnait comme lui. En avait-on essayé de ces sonneurs pendant que Daillé purgeait sa peine ? 15 ans, tu penses ? Pas un n'avait tenu le coup. Alors voilà Daillé qui revient, alors on lui a dit « Tu veux ?» Et lui a dit « Je veux bien », et le curé voulait bien, lui aussi. C'est quand il fait rose, un petit peu rose. Il y a 4 paliers où sont les cordes des grosses cloches, qui passent à travers le plancher par un trou. Et tout en haut commence la charpente. Là sont les petites cloches, et puis un banc où on s'assied. Et puis ces cordes sont terminées par une boucle. On se passe ces boucles autour des poignets, autour des coudes, autour des chevilles, autour des genoux. Il y en a 8, et ça commence. C'est quand c'est un peu rose, sur les plus hautes pointes qu'on voit autour de soi rangées avec leurs neiges et leurs glaciers. « Ah, c'est que c'est joli !» disait Anti. Tout le monde s'est réveillé ce jour-là en se demandant « Qui c'est qui sonne ?» Et puis on s'est dit « Ah, bien sûr, c'est Daillé qui est revenu !» Quand ça monte et que ça tourne en rond comme des petites filles dans un pré, et puis vient un coup de la grosse cloche. C'est un peu faux, ça monte, ça retombe. C'est comme quand une main jette la graine. Ça s'éparpille parmi l'herbe, ça va vite, ça se ralentit, et ça se tait ou presque, et puis ça repart tout à coup. Ça dit au ciel « Éclaire-toi !» Ça frappe aux portes, ça va, ça vient, ça court partout. Et l'homme qui est là-haut penche la tête, abaisse le coude droit, le laisse remonter, abaisse le coude gauche, le genou, les 2 genoux, les pieds, et les pieds sont passés dans des espèces d'étriers.
et avec une belle cadence, une grande variété, de continuels changements de rythme, l'homme dit là-haut tout ce qu'il a à dire, et quand il n'a plus rien à dire, il se tait. Alors c'est au tour des garçons qui sont en bas, et qui sont quatre. Ils se pendent à la corde de la grosse cloche, elle-même aussi grosse que le poignet. Ils commencent par sauter en l'air de manière à l'attraper le plus haut possible. Ils se laissent retomber de tout leur poids, la cloche balance. Mais elle balance encore à vide, elle balance silencieusement 3 ou 4 mètres de tour avec un énorme battant. Puis, voilà le battant qui touche enfin pour la première fois le rebord du bronze, et il en sort quelque chose de sourd, quelque chose qui vient de profond. Une espèce de grosse toux qui s'en va soudain ébranler l'espace, pendant que les vitres tremblent. C'est leur tour, aux garçons, d'être mis en branle, tous les quatre, cramponnés à la corde, montés en l'air, leurs pieds quittant la terre, puis ils retombent, plient les genoux. C'est pourquoi c'est beau. Eh, disait le père Anti, ça me manque, pas à toi. Elle a marché à côté de lui pendant qu'il remontait la ruelle. Elle tenait à la main le baluchon du vieux qui était un vieux sac en toile brune presque vide. Lui avait toujours ses lunettes noires et sa canne. Elle lui disait « Tu feras attention, je vais te prendre ton billet, tu le mettras dans ton porte-monnaie, et tu sais à quelle station tu dois descendre, tu n'auras qu'à bien écouter les noms que crie le conducteur. » Il faisait du bruit avec sa canne, il semblait ne pas entendre. Le train de 7h09, à petit matin frais, un petit matin rose. Le boulanger était debout sur la porte de sa boutique, tout blanc, avec son maillot blanc et ses bras nus enfarinés. Une femme a passé avec un pot de lait. On tourne dans la rue à gauche. Tu arrives vers les 9h. Tu te rends directement à la consommation. Ils te connaissent. Ils te trouveront bien une place dans le camion. C'est une petite gare en briques. Ils ont dû traverser la double voie. Le train omnibus s'arrête partout, une trentaine de stations. Comme ils étaient en avance, ils ont dû attendre un long moment sur le quai presque désert. Le train est arrivé, le train s'en va. On ne voit plus que le wagon qui est en queue. Le train passe sous une passerelle. Il s'engage dans la tranchée qui a été pratiquée à son intention au beau milieu du village. Et la voie tourne ensuite, gagnant le bord du lac, d'où monte une grande lumière qui remplit tout le vide qu'il y a entre les montagnes. Ici se termine Le Père Anti de Charles Ferdinand Ramus, enregistré par Christiane Jehan.